Bien, merci à tous. Donc, nous allons tout de suite passer à la deuxième séquence de cette journée. Donc, cette séquence, elle va porter sur la biodiversité marine. On va s'interroger sur l'efficacité des aires marines protégées, sur les impacts de l'éolien en mer sur la biodiversité marine, et on s'intéressera également à l'avis citoyen sur ces différents sujets.
Pour cette première présentation, je vais appeler nos camarades de master Agathe et Emma à me rejoindre. Je ne vous en dis pas plus, mais peut-être que des pop-corn pourraient être appropriés pour cette présentation.
Donc bonjour à toutes et à tous, nous allons vous présenter une vidéo portant sur le thème des aires marines protégées ou AMP. Donc ce travail a été réalisé par Agathe, moi et deux de nos camarades, Antoine et Lénaïque. Et donc pour aborder ce thème des AMP, on a réalisé une vidéo illustrative avec des prises de vue de territoires normands. Alors on vous propose de plonger avec nous dans une immersion au cœur des AMP, ces refuges pour la vie marine dans un monde en mutation.
On vous souhaite un très bon visionnage et on se retrouve juste après la vidéo pour discuter des constats qu'on a pu faire lors de la réalisation de notre étude de cas sur l'efficacité des aires marines protégées. Bon visionnage.
Les océans, piliers de notre existence, jouent un rôle fondamental dans l'équilibre de la vie sur Terre. Les services écosystémiques que fournissent les océans sont inestimables. Ils régulent le climat, produisent de l'oxygène, participent au cycle de l'eau et fournissent des ressources alimentaires essentielles. Cet espace de liberté est aujourd'hui menacé par l'exploitation toujours plus importante des ressources et énergies. Cela engendre des conséquences dévastatrices, tant pour la biodiversité marine que pour les communautés humaines dépendantes de ces écosystèmes. C'est au fil du temps que nous avons perdu le cours de l'eau. Il nous a fallu trouver des solutions, des outils pour minimiser les pertes et protéger nos espèces. Entraînés par une dynamique mondiale, nous avons décidé de protéger le poumon de notre planète. C'est d'abord au niveau international que les premières initiatives ont été prises. Le sommet de la Terre de Rio de Janeiro semble être le point de départ d'une prise de conscience majeure des enjeux de biodiversité. En s'accordant avec la scène internationale, l'Union européenne, puis la France à son tour, se sont lancés dans un plan ambitieux de protection des océans au travers d'un réseau intégré d'aires marines protégées. Le voilà donc l'outil que nous allons vous présenter, les aires marines protégées.
Des espaces géographiques clairement définis, reconnus, consacrés et gérés par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer sur le long terme la conservation de la nature, ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associées. Celles-ci n'excluent donc pas les activités humaines lorsqu'elles sont compatibles avec les objectifs de protection de la biodiversité.
Dans l'Hexagone, une aire marine protégée est accompagnée d'un plan de gestion, donnant vie à l'invisible. Chaque AMP raconte une histoire unique de résilience qui lui vaut un plan de gestion personnalisé. L'Office français de la biodiversité, toujours gestionnaire ou co-gestionnaire de ces aires, y dédie les moyens humains, financiers et techniques. Un support nécessaire à l'efficacité de l'aire marine protégée pour ne pas la délaisser et en faire une AMP qui n'existerait que sur le papier.
La France, avec ses côtes escarpées et ses îles lointaines, possède le deuxième domaine maritime mondial. On parle d'un espace maritime de plus de 10,2 millions de kilomètres carrés répartis sur tous les océans. Le contrôle et la surveillance de cet espace représentent donc des enjeux économiques et stratégiques. Et puis, dans cette masse, viennent parfois se perdre les enjeux de protection de la biodiversité. En avant-garde de ce mouvement de protection, la France connaît un succès indéniable, mais les défis persistent. En 2020, nous avons atteint 30% de protection pour les zones marines et côtières, mais seulement 1,7% du territoire national bénéficie d'une protection forte. La majorité de cette protection forte se concentre dans les terres australes et antarctiques françaises. D'importantes lacunes quant à la quantité et au niveau de protection se font ressentir, notamment en France métropolitaine, où seulement 0,03% des eaux bénéficient d'une protection forte, dite ZPF.
Les objectifs des aires marines protégées offrent un potentiel exceptionnel, dépassant les avantages évidents sur le plan environnemental. En plus de protéger ou restaurer la biodiversité, Elles sont parfois porteuses de nombreux avantages d'ordre économique et social. Pour les professionnels de la mer, les AMP offrent de nouvelles perspectives. Une gestion minutieuse de ces zones assure la restauration des ressources halieutiques, augmentant ainsi les rendements de pêche à l'intérieur, mais également à l'extérieur de ces aires. Au-delà de leur impact économique, elles sont des lieux vers lesquels les experts du monde entier convergent, transformant les AMP en laboratoires naturels, cruciaux pour rendre compte de l'efficacité des aires et de leur pertinence sur le long terme. Les aires marines protégées ne sont pas des îlots isolés. Elles s'intègrent dans un contexte plus global, celui de la gestion intégrée des zones côtières, en créant un lien fort entre la terre et la mer. Il faut garder à l'esprit que plus une aire marine protégée tendra vers une protection stricte, plus ses objectifs, qui sont en réalité des avantages, seront maximisés.
Alors que le soleil se couche sur l'horizon marin, rappelons-nous que les AMP sont bien plus que des zones délimitées sur une carte. Ce sont des zones clés pour la biodiversité, de véritables oasis de vie dans un monde en constante évolution. La protection de ces aires est essentielle afin de pouvoir assurer un avenir durable et souhaitable pour l'homme sur notre planète. Cependant, il semble que l'outil n'ait pas atteint son potentiel maximum de protection de la biodiversité et pourrait être sujet à amélioration.
Donc on espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur ce que c'est qu'une aire marine protégée et quels sont ses objectifs, comment s'articule cet outil. Maintenant, on va revenir sur les constats qu'on a pu faire quant à l'efficacité de ces aires et je vais laisser la parole à Emma qui va vous en lister quelques-uns pour commencer.
En effet, le premier constat qu'on a pu faire, c'est que la définition du terme AMP diffère. En effet, la définition française d'une aire marine protégée diffère de celle internationale donnée par l'UICN, puisqu'on parle du terme AMP à la française, qui, je cite, « désigne une zone protégée où on court des activités de pêche industrielle ». Et au final, on s'est demandé si il est vraiment crédible de rester dans une logique d'AMP à la française, donc où des activités industrielles sont autorisées, alors que le but principal d'une aire marine protégée est de réellement protéger les espèces qui s'y trouvent. Selon les ONG, une avancée significative dans la protection de la biodiversité consisterait notamment à faire correspondre justement cette définition française des AMP à celle internationale, ce qui permettrait d'y interdire les activités industrielles qui sont destructrices pour les milieux aquatiques. Et en plus, cela permettrait à la France de gagner en crédibilité sur la scène internationale en matière de crédibilité due à la protection de la biodiversité. Le deuxième constat qu'on a pu faire concerne la pluralité des catégories des aires marines protégées. En France, on recense 11 catégories d'aires marines protégées qui sont listées dans le Code de l'environnement, alors que sur la scène internationale, l'Union internationale pour la protection de la nature en reconnaît seulement 6. Donc, cette pluralité dans les catégories d'AMP tend à complexifier la compréhension de cet outil pour le grand public et donc ses intérêts et sa mobilisation concernant les aires marines protégées. Et en plus, cela éloigne l'outil d'une réelle protection forte, stricte et donc efficace.
Un autre constat qu'on a pu faire, c'est que les aires marines protégées, donc comme vous avez pu l'entendre lors de la vidéo, on a atteint en 2020 les 30% de mise sous protection des zones marines et côtières. Néanmoins, on constate qu'il y a encore beaucoup d'aires marines protégées qui ne sont pas dotées d'un plan de gestion efficace et concret. Donc un plan de gestion efficace et concret, ce serait des objectifs à court terme, une réelle stratégie sur le long terme, une réglementation des contrôles et une évaluation des analyses scientifiques. Et c'est d'autant plus compliqué d'articuler tout ça autour d'une gestion participative, mais l'UICN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature, elle qualifie en fait ce manque d'objectifs qualitatifs comme des AMP papier, donc comme on a pu le mentionner pendant la vidéo, donc des AMP qui n'existeraient finalement que sur le papier et pas sur le terrain. C'est une stratégie, c'est ce que la France essaie de faire dans une stratégie pour les aires marines protégées, en mettant en avant les objectifs qualitatifs pour pérenniser ce réseau d'aires marines protégées. Et c'est vraiment un point important à retenir. Ensuite, on s'est également intéressé sur les AMP et est-ce que cet outil n'est pas finalement trop faible au vu des activités qui sont parfois autorisées à l'intérieur de ces aires. Et on a pu le voir en début d'année avec le chalutage de fond qui a été réautorisé, enfin qui n'a pas été interdit par la Commission européenne. Et donc le chalutage de fond est parfois autorisé dans certaines aires marines protégées, donc ce qui peut entraver la protection de la biodiversité. Et puis finalement, je reviendrai sur un dernier point qui est celui de la complexité, c'est important de le mentionner, de mise en place de ces aires marines protégées, parce que les aires marines protégées, il y a besoin d'un droit à l'environnement, et le droit à l'environnement c'est quelque chose de très récent qui se met en place progressivement, et ça les aires marines protégées elles en ont besoin pour être efficaces, donc il ne faut pas oublier que c'est quelque chose de nouveau. Ensuite, le cas particulier de la Manchesse mer du Nord, qui est une mer très anthropisée, dans laquelle on retrouve une pluralité d'acteurs assez importante, et il faut vraiment qu'il y ait une gestion participative entre tous ces acteurs, et c'est quelque chose qui peut rendre parfois compliqué l'efficacité de ces aires marines protégées. Et puis finalement, le grand contexte de la grande accélération et des changements climatiques, qui sur le long terme peut entraver les objectifs de protection de la biodiversité au vu de la migration des espèces, et voilà.
Et en guise de conclusion, on tenait à nuancer les limites que l'on a partagées avec vous, puisque la France, au vu de ses moyens techniques, financiers et son pouvoir d'influence, pourrait entraîner un mouvement mondial de protection des océans et serait en capacité de faire face aux défis que l'on a mentionnés précédemment. Donc voilà, on vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup à toutes les deux pour cette présentation. Je vous propose de passer les 5 prochaines minutes avec les étudiants du BUT d'Alençon qui vont interroger la perception de la biodiversité marine par le grand public en Normandie. Donc j'invite Maëlle et Noé à nous rejoindre pour leur présentation.
Donc bonjour à tous. Donc notre principale intervention ici, ça va être de vous présenter justement les différents avis récoltés sur notre zone d'enquête avec les différentes personnes qu'on a pu rencontrer sur notre zone d'étude. Donc je ne vais pas forcément rappeler le principe de notre enquête qu'on a menée au cadre de notre formation, parce que je pense qu'Adrien l'a très bien fait. Donc ce qui est important pour nous de souligner, c'est que c'était extrêmement intéressant et important pour nous de récolter les différents avis des personnes locales qu'on a pu rencontrer pour comprendre au mieux les différentes préoccupations et les différents ressentis qu'ils pouvaient avoir sur les zones. Donc on a traité de nombreuses thématiques, mais justement la thématique qu'on va vous présenter maintenant, c'est les différents ressentis sur la biodiversité, les risques qu'elle encourt. Donc cette carte qu'on a réalisée justement dans le cadre de notre enquête de terrain, c'est une carte justement qui vous présente les différents sites d'importance communautaire et de zones de protection spéciale qui sont classées par Natura 2000. Donc pour rappel, Natura 2000 est une association à échelle européenne qui a pour but de préserver et de protéger les différentes zones naturelles que l'association a pu classer. Et on retrouve aussi sur la carte les différentes zones d'énergie maritime renouvelable. Donc on est un peu désolé pour l'imprécision, mais c'est des zones qui existent déjà, ou alors c'est des zones qui sont en projet. Par exemple, Manche 1 et Manche 2 qui sont juste à l'ouest du Havre. Donc on peut constater qu'il y a une zone d'énergie maritime renouvelable qui est présente sur une zone de protection spéciale classée par Natura 2000. Donc ça laisse la question de savoir quel est l'impact aussi de ces exploitations et ces zones énergiques sur les différentes zones de protection. Donc je vais laisser mon camarade Maël vous présenter les différents résultats qu'on a pu constater. Et leur...
Voilà. Donc tout d'abord, nous avons vous présenté justement nos analyses que nous avons faites, notamment sur le ressenti de la préservation des écosystèmes marins, puisque nous pouvons le voir, il y a 10% des avis qui prône vers une suffisance de protection des espaces maritimes et de l'écosystème marin. Et il y a un tiers environ des personnes et des répondants qui ont trouvé, soit alors qu'il y avait une asymétrie d'information, donc ils n'osaient pas prendre parti, soit alors qu'ils n'avaient pas forcément d'avis clair et positionné. Donc, un tiers des personnes qui ont, notamment chiffre 3, qui ne semblent pas avoir d'avis, et la moitié des avis qui prônent vers une insuffisance de la préservation des écosystèmes marins, notamment sur la façade Manchester-Mer du Nord. Ensuite, nous avons sondé la population et les usagers par rapport à... Ah non, c'est l'autre. Merci. Donc c'est notamment le ressenti sur l'état des réserves de pêche. Donc nous pouvons voir qu'il y a 2/5 de la population qui, elle aussi, n'a pas forcément les bonnes informations ou qui ne semble pas prendre parti du fait d'un manque de connaissances. Et 1/10 des avis qui prônent vers une suffisance de la préservation des réserves de pêche, et 2/5 qui tendent vers une insuffisance de la préservation des zones de pêche. Donc ensuite, comme l'a dit et l'a montré notre camarade Adrien, donc il y a différents impacts anthropiques qui sont liés à différentes activités, donc notamment les agriculteurs exploitants et les ouvriers qui, eux, pensent que justement la préservation de l'environnement, elle est primordiale et qu'elle n'est pas forcément suffisamment bien préservée. Et pour les cadres et professions intellectuelles, pour les professions intermédiaires, pour les employés, mais également pour les personnes sans activité professionnelle, il y a un accord sur le point que, justement, tous les avis sont plutôt nuancés. Et à l'inverse, les retraités pensent majoritairement que les écosystèmes marins sont suffisamment préservés.
Merci à vous pour cette belle présentation qui s'intéresse finalement à l'acteur principal de ce débat, qui est le grand public. Pour la prochaine présentation, je vais appeler mes 4 camarades du groupe de Zoé, donc de mon master. Cette présentation va être quelque peu inhabituelle, c'est pour ça que ça requiert un petit peu de préparation. Mais je ne vous en dis pas plus.
Bonjour à tous, chers amphispectateurs, bienvenue à vous dans votre émission hebdomadaire favorite qui veut gagner des éolions. Aujourd'hui, je vais prendre 3 participants au hasard dans la salle pour jouer à notre jeu et répondre à quelques questions. Alors, complètement au hasard, Lucie, si tu veux bien venir. Ensuite, Amy. Et enfin, je ne sais pas où tu es, mais Chloé, tu as été sélectionnée à un moment donné, donc tu peux venir aussi. Donc les filles, vous allez répondre à quelques questions que je vais vous poser. Donc on est sur un jeu de rapidité, il va falloir buzzer si vous pensez avoir la réponse parmi les 4 réponses qui vous seront proposées à l'écran. La gagnante aura le plaisir de remporter une magnifique croisière dans le parc éolien de Saint-Nazaire. Alors c'est parti, on peut commencer avec la première question. Première question. Sur quelles espèces les éoliennes posées ont-elles le plus d'impact ? Réponse A, les oiseaux et autres espèces volantes. Réponse B, les souris et autres rongeurs. Réponse C, les mammifères marins et autres espèces marines. Et enfin, réponse D, les coyotes et autres canidés. Lucie.
Oui, il s'agit de la réponse C, les mammifères marins et autres espèces marines, puisque l'implantation de parcs éoliens leur cause beaucoup de stress et des comportements d'évitement. Donc en gros, ça perturbe leur trajectoire, leur trajet migratoire, leur communication, puisque beaucoup d'espèces communiquent grâce à des ondes sonores. Et ça peut également leur causer des lésions, lors du battage de pieux pendant l'installation ou le démantèlement de ces parcs éoliens.
Bravo Lucie, c'est une bonne réponse. Vous emportez ce premier point.
Merci.
Question suivante. Quel projet coordonné par l'Institut de recherche technologique Jules Verne vise à commercialiser des pales d'éoliennes entièrement recyclables ? Le projet Lion, le projet Tigre, le projet Zébra ou enfin le projet Panthère ? Amy, vous êtes la première à buzzer.
Le projet Zébra. Je pense que c'est ça parce que actuellement, jusqu'à aujourd'hui, les pales des éoliennes étaient le seul élément non revalorisable de l'éolienne. Et depuis 2022, l'institution Jules Verne a sorti son premier prototype réussi de pales 100% recyclables.
Voyons tout de suite si c'est la bonne réponse. Effectivement, merci Amy pour ces précisions, c'est une bonne réponse. Question suivante. De quel pays proviennent majoritairement les terres rares utilisées dans la fabrication des aimants permanents des éoliennes en mer ? De France, de Chine, du Brésil ou de Russie ? Chloé ?
Du Brésil, je dirais. J'imagine que c'est pas en France.
Et non, c'est une mauvaise réponse. On l'a pas très bien entendu, mais elle a répondu du Brésil, pour ceux qui n'ont pas entendu. Donc la réponse était la Chine. Effectivement, la Chine a une position dominante dans l'extraction des terres rares, puisqu'elle est responsable à 80% de sa production mondiale. Leur extraction est cependant très polluante, puisqu'elle nécessite d'être extraite de la croûte terrestre. Désolée Chloé, le point ne vous revient pas. Question suivante. À quoi l'énergie grise se réfère-t-elle dans le contexte des éoliennes en mer ? À l'énergie à un moment donné, à l'énergie nécessaire dans l'entièreté de son cycle de vie, à l'énergie stockée dans les pales d'éoliennes, ou enfin à l'énergie produite par les éoliennes la nuit ? Chloé, encore.
C'est l'énergie nécessaire dans l'entièreté de son cycle de vie, puisque les éoliennes produisent de l'énergie dès l'extraction des matériaux, mais aussi pendant leur cycle de vie et pendant le démantèlement des éoliennes. Mais c'est de l'énergie qu'on ne pense pas forcément, par exemple pour l'extraction des matériaux, donc on l'appelle l'énergie grise.
Voyons tout de suite. C'est une bonne réponse. Bravo Chloé, vous emportez le point. Question suivante. Que permet l'effet récif, souvent mis en avant par les promoteurs de parcs éoliens en mer ? Il permet la concentration de poissons et d'espèces marines, il permet le refroidissement des éoliennes, la transformation des éoliennes en rochers, ou enfin la réduction des risques de tsunami. Amy ?
La réduction des risques de tsunami.
Ah non, c'est une mauvaise réponse, c'était pourtant... Non, malheureusement, la réponse était la réponse A, la concentration des poissons et d'espèces marines. La structure immergée des éoliennes agit comme un récif pour certaines espèces marines, comme nous avons pu le voir dans les précédentes présentations. C'est un phénomène qui pourrait également être négatif, car il pourrait potentiellement favoriser la prolifération d'espèces toxiques invasives qui pourraient perturber les écosystèmes. De plus, ces structures immergées, elles libèrent des métaux, notamment de l'aluminium, à travers la peinture anti-fouling qui les recouvre pour les protéger de la corrosion. C'est une mauvaise réponse. Désolée, Amy. Passons maintenant à la dernière question. Quels effets a la multiplication des lignes électriques dans les fonds marins ? Les poissons s'électrocutent ? La pollution plastique ? Les perturbations électromagnétiques et sonores, ou enfin cela forme des nœuds ? Lucie ?
Alors je pense que c'est la réponse C, les perturbations électromagnétiques et sonores, puisque, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ce sont les mammifères marins qui sont le plus impactés donc par les parcs éoliens, et ça peut avoir un effet sur leur santé et sur leur présence dans la mer, notamment à cause des perturbations électromagnétiques et sonores.
Voyons tout de suite. C'est une bonne réponse, bravo Lucie. Lucie, cette bonne réponse vous permet d'obtenir donc 2 points. J'ai l'honneur de vous annoncer que vous remportez donc ce jeu, qui est probablement le jeu le plus rapide de la télé connue en France. Vous remportez donc la croisière pour visiter le parc éolien de Saint-Nazaire. Félicitations à vous. Mesdames et messieurs, les amphispectateurs, merci d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui à suivre notre émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle question de débat. Plutôt pain au chocolat ou chocolatine. Merci.
Merci à toutes les quatre pour cette présentation ludique. Nous allons maintenant pouvoir passer au temps d'échange de cette séquence qui va aborder les questions relevées lors des présentations. Je vais appeler Lénaïg à me rejoindre pour présenter la séquence et appeler ses intervenants.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau temps. Comment ? Bonjour à tous. Ok, super. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau temps d'échange. Je suis Lénaïg, votre animatrice pour cette séquence qui porte sur la biodiversité marine, un enjeu crucial qui mérite toute notre attention. Et donc, nous allons aborder différents aspects de ce domaine pendant les 10 prochaines minutes seulement. On s'excuse du temps qui court. Donc voilà, en présence de nos intervenants qui vont nous apporter leurs connaissances suite à leurs travaux. Donc, permettez-moi de vous les présenter, nos trois intervenantes que j'invite à me rejoindre au fur et à mesure. Donc, pour commencer, Lucie Bédard, étudiante du master DDSC à l'université de Caen-Normandie, que nous venons de voir sur un quiz concernant l'impact de l'éolien en mer sur la biodiversité. Ensuite, j'appelle à nous rejoindre Agathe, étudiante du master DDSC de l'université de Caen-Normandie, toujours, que nous venons de voir lors de la vidéo sur les AMP. Outils de la préservation de la biodiversité marine. Et enfin, j'appelle Léane, étudiante du BUT, carrière sociale, parcours ville et territoire durable de l'UT d'Alençon, que nous venons voir son groupe nous présenter donc une présentation sur la perception de la biodiversité marine en Normandie. Bienvenue. Tout d'abord, suite à vos présentations, donc, si vous avez des constats à nous partager, à qui veut prendre la parole ?
Moi, je faisais partie d'une équipe avec mes camarades en DDSC. On a étudié l'implantation des parcs éoliens sur les façades maritimes et les impacts que ça pouvait avoir sur la biodiversité dans ces espaces. On a relevé trois perturbations majeures, donc qui pouvaient être d'ordre sonore, au niveau du battage de pieux quand les éoliennes sont implantées ou sont démantelées. Ça perturbe la communication des espèces marines, mais c'est pas sur le long terme. Enfin, en tout cas, il a été constaté pour plusieurs espèces que ce n'était pas sur le long terme et que la communication pouvait revenir. Par contre, sur le long terme, il y a quand même des effets avérés au niveau des changements neurologiques et du stress. En deuxième aspect, on a des perturbations qui vont être électromagnétiques. Ça perturbe, comme je l'ai dit précédemment, les trajets migratoires. Et enfin, il y a des perturbations chimiques parce que à proximité des câbles qui sont posés dans les fonds marins, la température va subir une hausse. Et ça a un impact sur les populations de crustacés qui s'y trouvent. Par exemple, à court terme, nous, on a mené une enquête sur le secteur de Courseulles. Et ils ont donc remarqué que les poissons plats et les crustacés dans les fonds marins étaient présents en moins grande quantité.
Je te remercie. Quelqu'un d'autre pour ajouter un constat ?
En plus des espèces marines, c'est-à-dire dans l'eau, on a aussi eu des informations sur plutôt tout ce qui était oiseaux par rapport au fait que parfois les éoliennes sont placées sur des couloirs migratoires et donc que ça pouvait également perturber les oiseaux dans leur migration. Donc j'ai pas d'exemple d'espèce précise, mais ça crée des obstacles en fait sur leur chemin.
D'accord, merci. Et peut-être Agathe pour finir nous présenter vos constats suite à vos études de cas.
Donc du coup, on a réalisé une étude de cas sur l'efficacité des aires marines protégées et on s'est posé des questions à ce sujet. Et le premier constat qu'on a pu faire, c'est que l'efficacité des aires marines protégées, elle est quand même proportionnelle au niveau de protection de l'air. Donc plus la protection de l'air va être élevée, plus les espèces et la biodiversité seront préservées. Et ça, c'est le premier constat qu'on a pu faire. Après, au niveau des constats concernant la communication, c'est vrai qu'on a un peu peiné à trouver des... ça s'est relevé assez compliqué de trouver des informations et il y a une communication qui est quand même très faible autour du sujet des AMP. Et voilà.
Je vous remercie. Et peut-être pour compléter, suite à ces constats, si vous avez des inquiétudes aujourd'hui, suite à vos études de cas, voilà, si vous avez des interrogations également concernant la biodiversité marine, je vous laisse prendre la parole.
Moi, j'ai un peu une inquiétude, je vais reparler de la communication encore, je suis un peu têtue. C'est que les gens, on a posé la question dans le questionnaire qu'on a fait passer auprès de la population si ils étaient inquiets face au dérèglement climatique. Donc là, je lis un petit peu la biodiversité avec le dérèglement. Et les gens se considèrent, considèrent que le fait d'agir face au dérèglement climatique, c'est quelque chose d'urgent, voire d'extrêmement urgent, pour, on a vu dans les graphiques tout à l'heure. Et en parallèle à ça, on leur avait également posé la question de comment évaluez-vous l'état des écosystèmes littoraux en termes de préservation. Et donc les gens, d'une part, se sentent concernés par le dérèglement climatique en disant que c'est quelque chose d'urgent, mais en parallèle à ça, ils pensent qu'il y a un manque de préservation, une insuffisance de préservation. Donc je ne sais plus qui a dit ça tout à l'heure, mais c'est vrai que les aires marines protégées, les gens ne sont pas forcément au courant qu'il y en a. Dans notre questionnaire, on avait vu aussi en fonction de la distance par rapport à la côte, et on a pu constater que les gens qui vivaient plutôt éloignés de la côte ne sont pas au courant en fait, de ce qui est mis en place pour préserver le littoral. Et donc, ça mériterait peut-être de mettre en place plus de communication pour que les gens aient une meilleure visibilité de la préservation qui est mise en place. Et donc peut-être de voir que finalement, elle est suffisante, ou si justement le fait que les gens ne soient pas au courant, ça témoigne aussi du fait qu'il y a une insuffisance de la préservation.
Merci. Si quelqu'un souhaite rebondir ou ajouter toute interrogation et inquiétude.
Nous, au niveau des inquiétudes pour les éoliennes, c'était... Enfin, il y avait des grandes inquiétudes au niveau des matériaux qui sont utilisés, donc notamment au niveau de la peinture anti-fouling qui est utilisée pour empêcher la corrosion des éoliennes. Comme Zoé a pu le dire précédemment, elle contient de l'aluminium et du zinc qui donc va relâcher des microparticules qui vont se retrouver dans les écosystèmes marins. Et il y a également des nouveaux matériaux qui s'appellent des terres rares qu'on a évoqués plus tôt, qui sont utilisés pour rendre, en fait, ce sont des métaux non renouvelables qui sont utilisés pour rendre les éoliennes plus performantes. Cependant, c'est la première fois qu'ils sont utilisés dans des éoliennes, donc on ne sait pas encore, on n'a pas encore beaucoup d'informations sur leur recyclabilité, si elles vont pouvoir l'être, comment elles vont l'être, etc. Donc voilà.
Je te remercie. Peut-être pour finir. Ah, vas-y, Agathe.
Et du coup, je terminerai par dire, nous, une des inquiétudes qu'on a eues, c'est la flexibilité de la définition d'une aire marine protégée et la définition française qui autorise les activités industrielles à l'intérieur des aires. Et du coup, on s'est posé la question, finalement, est-ce que cette définition, elle nuit pas à l'objectif premier de protection de la biodiversité, et est-ce qu'elle pourrait être revue ou pas? Donc, c'était une des inquiétudes.
D'accord, je vous remercie. Et suite donc à ces constats et inquiétudes que vous venez de nous faire part, quelles sont des solutions ou suggestions possibles selon vous? Voilà, qu'est-ce que vous aimeriez voir se faire dans un futur proche?
Du coup, on s'est interrogé sur la pertinence à long terme des aires marines protégées au vu du changement climatique aussi. Parce qu'en fait, il faut savoir que du coup, il n'y a pas de frontières sur une aire marine protégée et que les espèces, elles peuvent migrer, soit parce qu'elles prolifèrent, mais elles peuvent aussi migrer à cause du changement climatique. Et du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas réviser ces aires à une certaine fréquence pour pouvoir rendre compte l'efficacité de l'air en elle-même? Et ça, c'est une des premières solutions qu'on s'est posée.
D'accord. Après, on s'est demandé aussi si c'était possible de concilier donc AMP et zone où il y aurait des parcs éoliens pour pouvoir avoir un suivi donc qui serait spécifique à ces zones-ci pour pouvoir protéger au mieux la biodiversité donc qui s'y trouve.
Je te remercie. Si tu veux ajouter quelque chose, une proposition à apporter à ce débat.
J'ai envie de dire les solutions, on les cherche justement donc. Personnellement, je ne me vois pas là proposer des choses parce que j'ai rien qui me vient. Après, continuer à faire comme là on a pu faire, nous les étudiants, c'est aller au contact du public pour avoir des idées, parce que parfois on réfléchit, on reste dans notre cercle. Les gens qui travaillent là-dedans, ils ont plein d'idées, mais c'est bien aussi d'avoir des idées un peu neuves. Donc continuer à discuter, à faire de la concertation pour que tout le monde puisse proposer des solutions et sensibiliser. Après, je suis d'accord avec ce qui a été dit, donc je ne vais pas en rajouter plus.
Très bien, merci. Et puis, si vous avez encore des questions peut-être encore essentielles à ce stade, suite à vos études de cas, que vous n'avez pas réussi à résoudre ou pas du tout.
Moi, si je peux rajouter une inquiétude que j'aimerais soulever encore, ce serait au niveau donc, de l'effet récif. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'aspects positifs qui permettent un retour de la biodiversité. Cependant, donc, la vie moyenne d'un parc éolien, c'est 25 ans. Donc ça veut dire que chaque 25 ans, on doit redétruire de nouveau toute la biodiversité qui s'y est recréée. Donc ce n'est pas nécessairement une solution qui va être complètement durable. Donc voilà, cette inquiétude aussi à ne pas oublier.
Je te remercie et je vous remercie. Notre temps d'échange est terminé. Et donc, nous allons passer à la salle, prendre quelques questions du public. Donc, si vous avez des questions, des interrogations, des réactions, des avis, toute chose, je vous laisse prendre le micro qui va être passé par Chris. Et voilà. Pardon. Je vous écoute. Pardon. Monsieur, je vous écoute.
Oui, Jean-Claude Auvin, professeur émérite à l'Université de Caen-Normandie. Je suis à la fois président du comité scientifique de la façade Manchesse, mer du Nord, et président du comité scientifique du groupement d'intérêt scientifique Écume pour effet cumulant en mer. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'investissement que vous avez fait, la préparation de cette journée, et puis remercier aussi les encadrants qui se sont prêtés au jeu pour restituer cette journée. J'ai un regret en tant qu'ancien enseignant de l'Université de Caen, c'est que le master Aquacan, qui a un aspect plus biodiversité marine, n'ait pas été associé à cette réflexion et à ces journées. Mais ça, ça ne vous incombe pas. Au niveau de ce qui a été présenté sur la diversité, il y a quand même quelques manques. Mais bon, c'est normal, vous n'êtes pas du domaine. Ce que vous avez présenté, dans la plupart des cas, ça touche au littoral. Et on a très peu d'informations sur le large. Donc on a aujourd'hui un déficit de connaissances sur les écosystèmes du large. Et même si j'ai vu à deux reprises un peu les forçages qui sont très importants au niveau de la Manche, qui est une mer à forte marée, et on ne trouve pas les mêmes types de sédiments, donc les mêmes types d'organismes, que ce soit dans les zones de fort courant ou les zones de courant plus faibles. Donc des zones de fort courant, c'est plutôt des rochers, des substrats durs, comme on les appelle, et dans les zones de substrats de courant plus faible, des substrats plus meubles, des sables et des vases. Donc cette particularité, elle est à mettre en avant. D'ailleurs, au niveau des aires marines protégées, dans certains cas, c'est par rapport à la directive oiseaux. Donc c'est plutôt par rapport au pélagique et pas par rapport au benthique. Donc il y a aussi à classifier pourquoi il y a une aire marine protégée qui a été définie et pas sur la totalité du fonctionnement de l'écosystème. Et ce qui m'a manqué le plus, c'est la chose ça paraît hein, sur une des diapos, les effets cumulés. Donc l'éolien vient s'ajouter aux différentes activités en mer. On a vu dans un certain nombre de diapos, je vais essayer de ne pas être trop long, des diapos, les interactions avec les granulats marins. Il y a les dépôts de dragage dont on n'a pas parlé, il y a la pêche évidemment, il y a le trafic maritime, il y a le tourisme. Donc cette notion de d'effet cumulé est extrêmement importante dans cette discussion sur la planification des espaces maritimes. Et le défi pour nous, la science, c'est de déconvoluer, c'est de faire la part du au forçage du changement climatique, que vous avez un peu abordé, par rapport à l'ensemble de ces activités humaines. Pas prises de façon séparée les unes des autres, mais en essayant de faire un mixte, on parlait de mixte énergétique, de mixte anthropique, et quel va être le forçage le plus important. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est par rapport à l'effet récif, on va avoir un récif artificiel qu'on va mettre au large et qui va créer une zone intertidale. Alors il y a quelque chose qui n'est pas avéré et que j'entends depuis plusieurs mois, plusieurs années, c'est que les parcs éoliens favoriserait la prolifération d'espèces introduites qui ont un caractère invasif. Ceci n'est pas documenté, ce n'est pas avéré. Effectivement, sur un certain nombre de piles d'éoliennes au niveau des parcs du sud de la mer du Nord et en particulier en Belgique, on a vu des présences d'huîtres ou pas. D'où vient cette notion de prolifération d'espèces introduites et invasives par rapport aux parcs éoliens? Et enfin, j'ai une question, une remarque plutôt, notamment sur un certain nombre de fiches.
Je vous invite à finir. Merci.
Vous parlez de prolifération. Attention, quand on parle de prolifération d'espèces, souvent c'est lié à un dysfonctionnement. Alors attention au terme.
D'accord, c'est noté. Merci pour votre réaction qui vient s'ajouter au travail de nos étudiants. Peut-être quelqu'un d'autre dans la salle a une question, une remarque.
La source des invasives. C'est la question.
Alors attendez, prenez le micro s'il vous plaît.
Oui, pardon. Laurent Dumont de la Drale, mais la question m'intéresse aussi. La source des espèces non indigènes ou l'apparition, enfin, qui vous a dit ça en fait? Parce que a priori, ce ne sont pas forcément les éoliennes qui vont apporter ces espèces invasives.
D'accord. Donc, d'où vient la source? Peut-être quelqu'un peut répondre non, ou dans la salle, hein. Juste ici.
Du coup, je me permets d'y répondre parce que je travaille avec Lucie sur l'étude de cas qui nous portait vraiment sur les éoliennes à la base en général. Notre partie sur la biodiversité était vraiment une des sous-parties, juste pour le préciser. Sur l'effet récif, on a lu des rapports scientifiques. C'est possible qu'on puisse avoir aussi mal compris certaines choses, mais on en a lu pas mal. Et effectivement, on a vu que les avis sur l'effet récif sont assez controversés. Donc, il y a certains scientifiques qui disent que c'est très positif, d'autres scientifiques qui disent que c'est très négatif, d'autres qui disent que ça n'existe pas. Donc, effectivement, là, on en parle parce que c'est dit et ça a été publié. Donc, ça a le mérite d'être évoqué. Mais on n'est pas experte, donc on ne peut pas dire qu'on sait certainement ce qui se passe exactement.
Merci, Emily. Oui, je le rappelle, hein, c'est des travaux d'étudiants de master et voilà, qui sont cependant très qualitatifs. Une autre question dans la salle.
Monsieur. Oui, mais merci aux précisions de M. Dauvin qui était extrêmement pertinente. En tout état de cause, et merci pour votre travail, hein, en général, qui est tout à fait appréciable, bien sûr. Simplement, je voulais ajouter une chose. Vous avez certainement rencontré le comité des pêches de Normandie, ou à tout le moins des pêcheurs. Et à propos d'une éventuelle préservation qui va s'avérer nécessaire des ressources halieutiques, au-delà des problèmes évoqués, c'est la grande pêche par rapport à la pêche artisanale. Et juste, bon, vous en avez certainement autant que moi. Moi, j'interviens là surtout en tant que citoyen et de plus, de surcroît, normand. Vous savez que la pêche artisanale, c'est beaucoup d'emplois, bien évidemment. Des métiers remarquables. Hein. On a tous des relents historiques. À cet égard.
Je me permets de vous couper. C'est une question très intéressante. Mais cet après-midi, on a une partie particulière sur la pêche durable et puis la pêche aussi un petit peu en général. Donc je vous invite à nous faire partager votre réaction, vos questionnements là-dessus cet après-midi.
Oui, merci.
Super. Et puis je vais passer la parole peut-être à... Voilà, ici, il y a quelqu'un d'autre.
Oui. Alors cette fois-là, j'ai une question très brève. Je me disais en vous écoutant, effectivement, compte tenu de toutes les controverses qu'on a évoquées sur les effets environnementaux de ces implantations d'éoliennes, je me disais, c'est pas la première fois qu'on plante des choses dans le fond des mers. Enfin, je pensais par exemple aux plateformes pétrolières ou aux îles artificielles, etc. Est-ce qu'on a eu des études d'impact environnemental, par exemple, sur les plateformes pétrolières en termes de perturbations électromagnétiques, effets récifs, pollution par les peintures, etc. Parce que ça serait certainement un élément de comparaison intéressant, mais là, j'avoue ma crasse ignorance, donc voilà, d'où la question.
Je me tourne vers les études.
Alors, bon, bah, du coup, oui, sûrement, il y en a eu. Nous, on s'est pas intéressé à ce qui est plateforme pétrolière, effectivement, et en ce qui concerne la peinture, comme je l'ai mentionné précédemment, il n'y a pas encore d'études sur cette peinture particulière parce que elle va tout juste être utilisée, il me semble.
Voilà. Très bien. Oui, monsieur, je vous laisse.
Ouais, alors merci effectivement du travail puisque c'est quand même assez remarquable. Bon, on a vu que la moitié et je pense que cet après-midi ça va être du même tonneau, mais c'est chouette. Juste deux, trois remarques, notamment par rapport à des suggestions. Jean-Claude Devin l'a dit, les espèces bougent, est-ce qu'il faut bouger les aires marines protégées? Pas forcément. L'air marine protégée, on peut la mettre à un endroit où il y a des conditions particulières, notamment de marée, de courant, etc. Bon, les espèces ne seront plus les mêmes, mais les conditions spécifiques, elles demeurent au même endroit, par exemple. Donc c'est ce genre de choses qu'il faut regarder. Sur les sources des pollutions, attention à ce qu'on vous raconte. Enfin, les invasives, je crois que c'est un peu la même chose. Bien sûr que tous les équipements industriels ont des inconvénients. Un certain nombre de professionnels de la mer vous rappellent aussi fréquemment qu'à terre et sur le continent, il y en a un paquet d'usages industriels qui relarguent, etc. Et qu'à un moment, il faut regarder la part relative des uns et des autres. Bon, voilà. La durée des éoliennes aussi était une remarque intéressante parce que c'est vrai que revenir par exemple tous les 25 ans pour réaménager un site ou déconstruire, ça a un impact, c'est évident. Si on pose la question du premier débat, la réversibilité des choix, bah, quand on part dans le nucléaire, c'est 100, 200, 300 ans, puis il n'y a pas de marche arrière. Alors, détruire un habitat tous les 25 ans, peut-être, mais ça a l'avantage. Ouais. Donc les choses, elles sont à peser en fait. Il y a tous les choix ont leurs inconvénients et leurs défauts. Et alors la question que je voulais vous poser par rapport à votre travail, vous avez beaucoup dit, les aires marines protégées, elles ne sont pas forcément connues, il y a un déficit d'image, de communication, de compréhension. J'ai envie de vous demander, mais est-ce que vous auriez, vous, des projets, des idées, comment raconter ces choses-là, comment raconter l'histoire, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de dire, de les types de médias, les discours, les explications, qu'est-ce que vous auriez envie de faire là? Vous avez un an, la prochaine année, vous faites ce que vous voulez en termes de com, qu'est-ce que vous faites?
Je vous remercie pour cette question, c'est vrai que c'est très intéressant parce que justement, au cours de notre étude de cas, en fait, on s'est penché sur l'étude de cas, on devait réaliser un plan, et en fait, on voulait vraiment inclure la communication autour des aires marines protégées, et en fait, on s'est rendu compte que ça allait être une tâche très, 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 très compliquée. Donc si vous regardez notre étude de cas, il y a une partie qui est très maigre sur la communication autour des aires marines protégées. Et si je devais faire quelque chose, je pense que j'ai pas la solution. Je saurais pas par où commencer, je pense. Mais on s'est rendu au Cap Romain, c'est vrai. On s'est rendu au Cap Romain sur la sur l'aire marine protégée du Cap Romain. Et oui, il y avait des panneaux à l'entrée, c'était très intéressant. Mais c'est vrai qu'en fait, peut-être que les peut-être que en fait, ces panneaux-là, ils intéressent seulement les personnes qui connaissent vraiment le sujet. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être une communication plus générale, plus globale d'abord, et après quelque chose de très spécifique. Mais on n'a vraiment pas étudié le sujet, et ça me paraît très compliqué. Mais non, j'ai pas de solution.
Merci Agathe pour ce retour. Peut-être dans la salle, quelqu'un souhaite rebondir sur cette question. Oui, madame, juste ici le micro.
Merci beaucoup parce que c'était extrêmement riche et extrêmement intéressant. Vos points de vue sont très documentés. Je suis Caroline Pizard, je travaille à la Direction interrégionale de la mer. Et moi, j'avais deux questions à vous poser, peut-être un peu presque personnelles. À votre avis, parce que j'ai lu les documents que vous fournissiez à l'entrée, à votre avis, est-ce qu'il vaut mieux une gestion participative des aires marines protégées, quitte à ce que ça augmente les délais de mise en œuvre de certaines mesures, ou est-ce qu'il vaut mieux maintenir, réduire la concertation pour avoir une action plus rapide? À votre sens, qu'est-ce qui est préférable? Et puis j'ai une deuxième question. Est-ce que vous pensez que le public est conscient? Le public dans toute sa diversité est conscient que si on augmente la protection sur certaines aires, eh bien, ça va impliquer une diminution des activités, voire un arrêt des activités dans certains cas. Et que dans ces cas-là, est-ce que vous pensez que le public est prêt à une plus grande sobriété en matière de consommation énergétique, alimentaire et autres?
Commence par la première question et puis c'est pas la première question.
Du coup, je vais commencer par répondre par la deuxième question. Je ne me souviens plus la première, je suis désolée. Elles sont très, très, très intéressantes. Ah si, vous parliez de la gestion participative, ça me revient. Je pense que la gestion participative d'une aire marine protégée, elle est quand même essentielle parce qu'on a besoin de l'avis des personnes qui vivent sur ce territoire, donc tous les acteurs locaux, mais aussi les ONG qui œuvrent sur ces lieux. Après, il me semble que la gestion participative des aires, du coup, elle est aussi pas mal encadrée par l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui du coup... donne pas mal de moyens et d'outils techniques avec vraiment un cadre. Et je pense que c'est dans cette direction qu'il faut aller, avec un cadre vraiment... voilà, enfin, il y a tout un plan de gestion autour d'une aire marine protégée qui est assez bien détaillé. Et si tous les acteurs locaux, finalement, peuvent contribuer sur ce plan, je pense que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Et je ne sais pas si vous parlez d'une gestion plus centralisée, du coup, je pense que ce serait très compliqué de faire accepter, encore plus compliqué de faire accepter les aires marines protégées si la gestion n'était pas participative. Encore une fois, je n'ai pas la réponse. Et la seconde question.
Est-ce que les gens sont prêts à...
Ah oui, est-ce que les gens sont prêts à... Oui. J'en ai aucune idée. Après, bien évidemment, ça dépend du degré d'éveil de chacun et la distance que toutes les personnes ont avec... avec le territoire du littoral, je ne sais pas. Je pense que notre génération, peut-être, on serait prêt à faire des concessions, et bien évidemment qu'il y a des différences entre les activités qui sont menées sur les aires marines protégées, mais voilà.
Merci Agathe. Et bien ça y est, c'est la fin de notre séquence sur la biodiversité. Je tiens à remercier donc les intervenantes et puis le public pour tous ces échanges très enrichissants. Et puis je repasse la parole à Antoine et Zoé.
Merci Lénaïgue, merci à tout le monde, merci pour ces échanges, ces questions et ces réponses apportées toujours avec bienveillance. C'est très intéressant pour nourrir le débat. Merci à tous. Ce temps marque la fin de cette matinée. Nous allons maintenant pouvoir aller déjeuner.